Portrait de femme de notre matrimoine, saison 2022-2023, c'est le 25e portrait réalisé par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, à l'occasion du 80e anniversaire de sa mort en déportation, nous présentons la résistante à la conquête de l'unité des femmes, Danielle Casanova. De son vrai nom, Vincentella Perini, elle naît le 9 janvier 1909 à Ajaccio, en Corse, dans une famille de 5 enfants. Ses parents sont des instituteurs porteurs de valeurs républicaines. Après des études secondaires à Ajaccio, encouragée par ses parents, elle part en 1927 à Paris, où se trouve son frère journaliste et où elle poursuit des études de dentiste. Elle choisit le prénom de Danielle avec deux L. Et quand elle épouse plus tard Laurent Casanova, un étudiant en droit, elle prendra ce nom et deviendra Danielle Casanova pour la postérité. Dès 1927, elle adhère à l'Union fédérale des étudiants, la branche dentiste, puis aux jeunesses communistes en 1928 à 19 ans. Là, en quelques années, instruite, cultivée et sûre, enthousiaste, dynamique, elle s'impose comme l'élément féminin de la direction, celle qui parle, qui écrit, qui organise. En 1935, elle est invitée au 6e congrès de l'Internationale communiste des jeunes à Moscou. Au congrès suivant, à Marseille, en mars 1936, elle est élue secrétaire générale de l'Union des jeunes filles de France, l'UJFF, avec pour mot d'ordre « bien-être et paix ». Nous prenons notre part à la lutte pour la liberté et le progrès contre le fascisme qui nie et détruit les droits des femmes, déclare-t-elle. Et encore, il n'est désormais plus possible à la femme de se désintéresser des problèmes politiques, économiques et sociaux que notre époque pose avec tant de force. Le mouvement se développe rapidement parmi les jeunes filles, il devient un mouvement de masse. L'UJFF participe activement aux grèves ouvrières contre la misère et les mauvaises conditions de travail. Elle lie le droit au bonheur à la liberté de choisir son métier, de bénéficier d'une meilleure instruction et vie culturelle, ce qui, depuis des siècles, est un thème récurrent dans nombre de portraits de femmes, comme on l'a vu. Avec deux autres dirigeantes, Claudine Chauma et Jeannette Vermersch, elle revendique le fondement antifasciste et pacifiste de l'UJFF et son action pour l'émancipation des femmes. « Nous ne voulons pas de la souillure du fascisme, dit-elle. La conquête du bonheur est, pour la femme, liée à son épanouissement dans la société. Cet épanouissement est une condition nécessaire du développement du progrès social. » Elle organise des actions humanitaires pour envoyer des vêtements et du lait concentré aux combattants et combattantes des brigades internationales qui luttent aux côtés des républicains espagnols contre les nationalistes pendant que fait rage la guerre civile en Espagne. Son autorité est grande parmi les jeunes filles de l'UJFF à cause de ses qualités naturelles, de son enthousiasme communicatif et de son énergie. Quand, en septembre 1939, le rejet des avances sociales du Front populaire de 1936, ce sont les congés payés notamment, ces congés payés qu'on appelle maintenant les vacances, et l'anticommunisme de l'État français aboutissent à l'interdiction du Parti communiste et des structures qui lui sont rattachées, elle entre dans la clandestinité, comme au même moment Marie-Claude Vaillant-Couturier et Martha Desrumaux l'ont fait pour sauver leur vie. Mieux que d'autres, Danielle Casanova maîtrise les techniques de base de la vie clandestine qui nécessitent de la discrétion, de la méthode, du sang-froid et bien sûr du courage, car le danger est grand. À partir d'octobre 1940, elle participe à la mise en place des comités féminins de la résistance dans la région parisienne, zone occupée par les Allemands. C'est une réussite. Ces comités constitueront plus tard, à la sortie de la guerre, la base de la création de l'Union des femmes françaises, l'UFF, mouvement populaire qui défend les femmes. D'ailleurs, le rôle des femmes dans la résistance pendant la guerre de 1939-1945 sera déterminant pour l'obtention enfin du droit de vote pour les Françaises en 1944. Danielle Casanova crée le journal « La Voix des femmes », un lien entre toutes les femmes. Parallèlement, elle maintient ses contacts avec les dirigeants des jeunesses communistes et, prenant tous les risques, participe à leur action dans la résistance armée à partir de juillet 1941. Mais malgré son habileté à se déplacer en se cachant, elle est arrêtée par la police française, auxiliaire zélée de la police allemande, la Gestapo, le 15 février 1942, alors qu'elle ravitaillait en charbon ses amis Georges et May Politzer. Les policiers étaient chez eux et venaient de les arrêter. Incarcérée à la prison de la Santé, tout comme Marie-Claude Vaillant-Couturier, elle organise un bulletin d'information que les prisonnières se communiquent à travers les fissures du plancher. Puis elle est transférée au fort de Romainville, où elle continue de militer de la même façon. Le 24 janvier 1943, déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne, elle fait partie du convoi des 230 femmes âgées de 17 à 69 ans, en majorité des résistantes politiques, convoi des 31 000 d'après les numéros qui leur sont tatoués à leur arrivée sur l'avant-bras gauche. À l'initiative de Daniel, elles entrent dans le camp en chantant à tue-tête la Marseillaise. Daniel, en tant que dentiste, est affecté à l'infirmerie. Cela lui permet d'échapper au rasage de la tête et du pubis, le traitement réservé à toutes les déportées, d'être correctement vêtue et nourrie et de vivre dans un bâtiment chauffé. Elle profite de cette position « privilégiée » entre guillemets pour essayer de soutenir ses compagnes de détention et ce, de toutes les manières possibles, en leur apportant de la nourriture et des médicaments quand elle le peut. Plus tard, Marie-Claude Vaillant-Couturier témoignera ainsi. Mais plus encore que les médicaments, c'est sa présence qui nous fait du bien. Quand elle arrive avec son bon sourire dans ce bloc sombre et glacé, c'est comme une flamme qui nous réchauffe. Un autre témoignage, elle incarna pour nous toutes, un idéal. Elle devint un symbole et pas seulement un exemple pour les Françaises. Pourtant, la mortalité dans les blocs est effroyable. Marie-Claude Vaillant-Couturier, en tant que rescapée, décrira en détail l'horreur des camps dans son témoignage au tribunal de Nuremberg qui a fait le procès des responsables nazis en 1946. En avril 1943, une forte épidémie de typhus, le typhus est une maladie transmise par les poux, emporte de nombreuses prisonnières. Danielle est vaccinée, mais trop tard, elle tombe malade le 1er mai et meurt dans son coma le 9 mai. Elle avait 34 ans. Sa mort est une déflagration chez celle qui reste. Marie-Claude Vaillant-Couturier pousse ce cri du cœur. « Danielle, Danielle, pourquoi m'as-tu laissée toute seule? La tâche est trop lourde pour moi. Et pourtant, il faut qu'il y en ait qui rentrent. Il le faut pour continuer la lutte, pour que la France soit belle et libre comme tu la voulais. » Les cendres de Daniel Casanova, récupérées par sa famille, reposent dans le tombeau familial à Vistal, près de Piana, en Corse du Sud. Une stèle est érigée en sa mémoire. Contrairement à d'autres héroïnes, Daniel Casanova n'a pas été oublié, au contraire. De nombreux hommages lui sont rendus. Des collèges, des lycées, des écoles et des rues ont pris son nom à la fin de la guerre, à la libération. À Paris, rue Daniel Casanova, 1er et 2e arrondissement, nommé dès 1944. À Marseille, un boulevard Daniel Casanova. À Ajaccio aussi, sa ville natale. En tout, 35 villes ont des rues, des boulevards ou des avenues à son nom. En région parisienne, dans les départements de Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne. Des écoles et groupes scolaires à Arcueil, Montreuil notamment, et dans de nombreux départements, à Sainte-Tulle, dans les Alpes de Haute-Provence, à Toulon, dans le Var. En 1949, le peintre Boris Tasliski réalise pour l'UFF un tableau géant intitulé « La mort de Daniel Casanova ». En 1951, la sculptrice Annette Fèvre sculpte un buste à son effigie. En 2009, à la demande du ministère de la Culture, la biographie de Daniel Casanova a été publiée par les Archives nationales dans la brochure des célébrations nationales. En 1989, un bateau reliant la Corse au continent a été baptisé de son nom, puis ensuite rebaptisé Méditerranée. Mais en 2002, un nouveau bateau a été nommé Casanova. Son nom est donc très connu dans la France entière. Et pourtant, vous ne le trouverez pas dans les dictionnaires les plus couramment consultés, que ce soit dans le Petit Larousse illustré 2023 ou dans le Petit Robert des noms propres. Et quand on le prononce, on entend souvent autour de nous cette question. C'est le nom d'un bateau qui relie à la Corse, non ? Ou bien, n'est-ce pas le nom d'un aventurier italien du XVIIIe siècle qui a fait le récit de ses aventures galantes dans ses mémoires ? Voilà pourquoi, outre notre admiration pour son action, il nous a paru très utile de présenter son portrait, le portrait d'une femme exceptionnelle de notre matrimoine. Un dernier mot d'elle. Elle parle des femmes. Comme nous, elles ont la foi dans le monde nouveau duquel serait banni à jamais l'exploitation et l'esclavage de la femme.
Merci Jacqueline, vous citez vos sources, bien
oui.
sûr.
Alors les sources, l'exposition du journal Clara Magazine, Notre Matrimoine, 2019, panneau numéro 14, deux articles du journal L'Humanité, des 8, 9 et 10 février 2019, Daniel Casanova l'a déterminé, et des 28, 29, 30 avril et 1er mai 2023, Daniel Casanova, La conquête du bonheur, portrait publié à l'occasion de la journée du souvenir de la déportation. Et toujours, parisienne, ces femmes qui ont inspiré les rues de Paris, de Malka Markovitch et Jean-Marie Dubois, édition Ballant 2017.
Merci Jacqueline, et à la semaine prochaine avec une rediffusion.
Oui,
voilà, c'est ça.
Oui, une rediffusion. Le prochain portrait en direct, ce sera le 6 juin.
Voilà, rendez-vous donc le 6 juin et puis pour les deux rediffusions, comme d'habitude, le mardi. Bonne journée, au revoir.
Au revoir.